Chaque jour, on croise une voisine, une collègue, une amie, en leur disant bonjour sans se douter une seule seconde des drames qu'elles ont pu vivre. Parfois même, le tabou est tel que l'indicible devient une seconde nature dans beaucoup de familles. L'histoire de Camille nous ramène à notre première angoisse d'enfant, celle de la séparation. Je vous invite à écouter Camille qui a accepté de nous raconter son histoire. Vous écoutez Hystérique, un podcast de Tous Sorcières. Bonne écoute!
Premier souvenir de vie et d'enfant commence donc à l'âge de 3 ans, au moment réellement de l'accident de voiture de mes parents. Donc les premières images importantes que j'ai, c'est effectivement après le choc certainement, de me retrouver roulée, d'être tombée de la banquette arrière en fait de la voiture, de beaucoup de lumière autour de moi, et de l'image de ma maman qui était donc au niveau du siège passager avec la tête penchée sur le côté. Les ambulances, un petit peu d'images d'hôpital aussi, et des gens qui viennent me voir et le retour à la maison. Voilà. Après, il y a une espèce de flou artistique, c'est-à-dire qu'on me met dans du coton, on ne me reparle plus jamais ou très très peu de ma maman, sauf pour me dire que c'était une personne merveilleuse. Et voilà, en fait, elle disparaît de ma vie comme ça, avec cet accident-là. J'ai pas de souvenir qu'on m'ait dit clairement ce qui s'était passé, qu'elle était morte dans l'accident, que qu'on allait se retrouver donc tous les deux avec mon papa, ou voire même que mes grands-parents venaient prendre le relais et s'installer. Enfin, j'ai pas de souvenir en tout cas d'explication claire et nette dans mon esprit. Mes grands-parents viennent donc s'installer et prennent le relais, et je vis pendant 3-5 ans. Pendant 5 ans avec mes grands-parents et mon père qui est en déplacement pour son travail, donc je vois pas la semaine, je le vois que le week-end.
Et comment est-ce que du coup tu as compris dans ton inconscience que ta mère n'était plus là?
Alors j'ai dû moi poser des questions. Je me souviens, j'ai pas de repère d'âge, mais je me souviens que ma grand-mère me répond que ma maman est au ciel. Et en fait, très vite, j'ai parfaitement compris que le fait de parler de ma maman générait chez tout le monde autour de moi de la souffrance. Là, à partir de ce moment-là, c'est, je pense, devenu un sujet tabou, en tout cas que je ne m'autorisais plus à aborder. Chez mes grands-mères maternelles, pareil, j'étais vite le visage de ma maman. J'ai toujours ressenti un petit peu ce regard avec cette souffrance, alors que ma grand-mère maternelle, qui a énormément souffert, prenait les choses de manière plus terre à terre, alors que mes oncles et tantes, c'était quasiment, mon oncle en tout cas, se mettait à pleurer quand il me voyait, et à tout âge. Encore aujourd'hui, je le croise, il pleure. Enfin, j'ai retiré de mon esprit l'idée d'en parler parce que ça générait de la souffrance.
Et comment est-ce que ça s'est passé par la suite avec ton père surtout?
Alors, je pense qu'on est à peu près bâti de la même manière, c'est-à-dire que si l'un ne parle pas, l'autre comprend qu'il ne faut pas parler. Mon père étant pas très très bavard et en tout cas n'exprime pas énormément ses ressentis, là aussi très vite j'ai compris que on n'aborderait pas le sujet.
Ça a été abordé à un moment donné de ta vie ou pas?
Avec mon père, pas clairement. On peut aujourd'hui aborder cette période de notre vie. Pour exemple, dernièrement, j'ai 47 ans, 6 ans, j'ai mis dans ma chambre des photos de ma maman, où elle me porte, je suis bébé, etc. Et en fait, c'est bien la première, toute première fois qu'on ressort des photos et que ce soit mon père, qui m'a jamais montré de photos, ou moi, Et donc voilà, on a pu à un moment donné, et c'est là que j'ai quelque part imposé ce choix-là en disant, elle fait partie de ma vie quand même. J'ai des photos, des souvenirs, je la trouve jolie, bah voilà quoi. Et il y a cette photo avec mes parents, enfin mon père et ma belle-mère à côté, de la même manière. Quoi. Voilà. Mais là, mon père, il n'a pas fait de commentaires, à part à dire oui, c'est très bien, mais pas de commentaires, rien. On n'en a pas profité pour discuter ou qui me raconte une anecdote sur la prise de cette photo, qui c'est certainement lui qui a dû la prendre. Ou...
Ouais. Et alors, ton enfance dans tout ça?
Alors, l'enfance chez mes... Donc, il y a plusieurs phases, en fait. Il y a donc de 3 à 5... 7 ans, oui. Avec donc mes grands-parents, où là, je suis l'enfant chéri, la pauvre petite fille aussi, beaucoup ressenti ça. La pauvre petite fille qui a perdu sa maman, et ma grand-mère me laisse absolument tout faire. Donc je pense que c'est un modèle éducatif qui est perturbant quand même, on s'en rend pas compte sur le coup, mais ça a été dur par la suite, parce que donc mon père se remarie avec ma belle-mère, et on s'installe en fait à la naissance de mon petit frère. On s'installe tous ensemble. Moi, j'avais vu ma belle-mère un petit peu avant. Et on s'installe tous ensemble dans la même résidence où vivent donc mes grands-parents, pour pas non plus que la séparation soit trop rude avec mes grands-parents. Et on s'installe, donc ma belle-mère avec son bébé, elle a que 25 ans. Je comprends aussi que ce soit une situation un peu difficile déjà quand on est jeune maman. Et en plus avec un enfant qui est château branlant élevé, et qu'elle ne connaît finalement pas très bien. Et mon père qui est toujours en déplacement pour son travail et qui part là carrément des mois entiers puisqu'il travaille au Portugal. Donc, situation un peu dans un... Alors, ma mère était dans cet état d'esprit où elle s'est positionnée très rapidement en tant que belle-mère, d'être dans la résidence où avait vécu ma mère, où était décédée ma mère, où mes grands-parents vivaient encore, où donc on nous connaissait, et qu'elle était donc la belle-mère arrivée, et elle s'est sentie épiée, surveillée, jugée. Ça n'a certainement pas dû être le cas à ce point-là, mais je pense que c'était assez compliqué pour elle d'être dans ces conditions-là. Donc moi le ressenti c'était chouette, comme mes copines je vais avoir une maman, donc ça c'est génial. Je crois que j'ai quand même décidé de l'appeler maman très très tôt, parce que justement ça me remettait au niveau de tout le monde. Et en même temps on avait déjà, il y avait cet aspect d'éducation où il fallait quand même recadrer certaines choses, notamment au niveau de l'école où si j'avais pas envie avec ma grand-mère je faisais pas, alors que là bon, on m'incitait un petit peu plus à me forcer à faire, et là je comprenais pas pourquoi du coup ça changeait quoi. Donc il y a eu, je pense, une barrière affective à franchir quand même, et puis une barrière éducative aussi à comprendre. Voilà, il y a tout un tas de choses, je pense, que je comprenais pas tout à fait, et qui m'ont déjà, ça a amorcé en fait le fait que je me mette un peu en retrait de cette nouvelle famille recomposée. Mmh. Voilà.
Par rapport à ton père? Le fait qu'il y ait une nouvelle femme qui rentre dans sa vie.
Ça me dérangeait absolument pas. J'ai pas ressenti de jalousie du tout. J'ai pas ressenti ça. Par contre, là, mon père que je voyais très rarement, mais en même temps pour des moments de privilégiés, là devenait le père aussi qui éduquait et qui s'imposait comme tel. Et ça aussi, ça a été, je pense que ça a été un choc, c'était un peu rude d'avoir. Je n'avais pas connu d'autorité jusqu'avant parce que ma grand-mère me laissait faire et puis mon grand-père s'interposait pas du tout. Et d'un seul coup, j'avais toute cette masse d'autorité tout à fait normale dans l'éducation d'enfants, mais qui se confrontait à moi, quoi. C'était surtout ça, en fait, Alors aujourd'hui, je le comprends très très bien, mais à l'époque, à 8 ans, c'était compliqué, quoi.
Et donc dans l'ensemble, en fait, t'étais plutôt contente de pouvoir avoir cette famille?
Complètement.
L'arrivée du petit frère, tout ça, ça a été bien vécu? Ouais. Si je comprends bien.
Bah, le petit frère, en fait, oui, il est arrivé, c'était pas plus mal. C'était juste une famille qui redevenait normale, quoi. L'adolescence, effectivement, c'est pas simple. Alors, avec mon frère, on avait beaucoup d'écart d'âge. Donc, jusqu'à 12-13 ans, on faisait des choses ensemble et c'était très bien. Mais après, rapidement, changé d'intérêt. Donc, justement, je cherchais à partir de cette maison où, en fait, dans cette famille où je me sentais pas mal aimée, mais j'ai pas trouvé ma place, quoi, en fait. C'était compliqué dans les rapports avec ma mère. Elle se posait énormément, énormément, énormément de questions. Mon père était toujours en déplacement. Et elle se posait énormément de questions par rapport à moi, par rapport au veuvage de mon père, par rapport à... à elle aussi, beaucoup, hein, en fait. Je pense que dans tout ça, avec le recul, elle avait beaucoup de choses à régler avec elle-même. Et en fait, elle me le faisait... participer à toutes ces remises en question qu'elle pouvait avoir. C'était des séances de discussion qui duraient des heures et auxquelles je comprenais pas forcément grand-chose et qui étaient récurrentes vraiment. Et parfois, ça pouvait finir en crise de nerfs. Parfois, c'était... Donc, j'étais beaucoup cloîtrée dans ma chambre tant que elle m'attrapait pas pour avoir ces discussions-là. Et puis vite, j'ai trouvé une activité à l'extérieur qui me permettait d'être pas là, dans un premier temps les week-ends, les vacances, puis après c'était plus le plus que je pouvais, j'étais pas là, quoi. Donc scolairement parlant, c'est pareil, j'ai suivi mon cursus jusqu'à aller même jusqu'à changer de région pour être encore moins là. Jusqu'à donc voilà. Et bizarrement, l'année où je me suis vraiment sentie libre et où j'ai commencé à me révéler, j'ai commencé parce que j'étais encore en sortie de l'adolescence, mais bon, quand même, c'est quand j'étais les deux années d'études à Angers, quoi. Où là, vraiment, c'est des années où je commence à goûter à la liberté, où j'ai pas ce poids familial, en fait, quelque part sur le dos. Et ouais, je passe deux merveilleuses années. Avec malheureusement l'autre aspect de l'accident de moto qui intervient au mois de juin entre mes deux années à Angers. Après, par rapport à ma construction, ça effectivement, alors l'accident de moto, c'est ce qui me fait me dire que dans le déroulé de ma vie. Hein. D'un événement assez compliqué pour moi et dramatique pour mon compagnon, c'est ce qui me fait me dire que d'un événement compliqué, je peux en tirer quelque chose de très positif aussi. Parce que voilà, on relativise plein de choses. Moi, j'étais un petit peu hospitalisée, mais mon compagnon a quand même perdu son bras, est hospitalisé 2 ans, c'était beaucoup, beaucoup de soucis, de stress au début, ce milieu médical avec des interventions chirurgicales très importantes, c'est vraiment une immersion dans un monde auquel on s'attend pas du tout avec après le choc de l'accident aussi, quoi. Mais c'est de se dire déjà on avait nos copains qui étaient vraiment présents là, qui nous entouraient, donc ça c'était se dire ouais, quand même il y a des gens qui comptent, il y a des gens Et puis, puis après, de se dire, bon, oui, effectivement, il s'est passé quelque chose de grave, mais quelque part, on en ressort plus fort, on en ressort grandi. Ça, c'est cette prise de conscience-là de se dire déjà, d'un événement dramatique, on peut en sortir quelque chose de positif. Et moi, je me concentre là-dessus.
T'as eu cette période à Angers qui, comme tu le dis, t'a révélé. Qu'est-ce que tu entends par révélation, en fait?
C'est le ressenti de cette liberté, en fait, d'agir, de penser, c'est encore sous couvert de, parce que je suis scolarisée, mes parents qui gèrent encore, etc. Il n'y a pas une extrême liberté, mais une liberté de l'esprit quand même, de pas avoir, le poids parental sur le dos tous les jours, tous les soirs, le week-end si, parce que je rentrais le week-end, mais voilà. j'amorce en fait le fait de me détacher de ce groupe d'amis qui m'ont suivi depuis l'âge des 13 ans. Et je sais que bon, il y a l'accident de moto et je peux pas les quitter et quitter mon compagnon tout de suite. Mais je sais que je vais prendre ma liberté aussi à un moment donné et me séparer de ce groupe d'amis, ça va être important. Donc je pense que Angers m'a appris à devenir libre quelque part, de voilà, à prendre cette liberté et à me dire ben ça mettra le temps que ça mettra, mais effectivement à un moment donné je saurai me libérer.
Oui, tu dis ça comme si en fait au fur et à mesure tu construisais ta liberté ou ta notion de liberté, de partir du foyer familial, après d'Angers où t'avais aussi construit quelque chose et tu repars.
C'est une amorce, ouais. Ouais, ouais. Après, alors, bah effectivement, après, je change de travail, j'intègre donc la ville de Melun où je travaille actuellement et là, je me sens bien parce qu'en fait, je découvre que je suis faite et cet aspect justement service public me convient parfaitement bien. Donc ça me soulage et je me dis qu'effectivement dans mon métier, je vais pouvoir quand même m'épanouir correctement et voilà. Donc bon, c'est une bonne chose aussi. Je finis donc par quitter mon compagnon et de m'installer complètement toute seule.
Tu avais quel âge ?
Ben j'avais 23 ans. Donc voilà, je m'installe toute seule et je rencontre donc le père de mon fils aussi. C'est quelqu'un qui est plus vieux que moi, on avait 15 ans de différence. À ce moment-là, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens juste que on est en phase, c'est-à-dire que on aime les mêmes choses, on fait les mêmes, on a les mêmes passions. Alors, j'adhère souvent aux passions de mes compagnons, mais je me dis que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est pas quelque chose que je fais contrainte et c'est quelque chose que je garde et que je ressens longtemps derrière. Donc bon, finalement c'est pas plus mal. On est très très jardin, axé là-dessus. Moi je développe mon métier, j'apprends énormément de choses pendant toute cette période-là. Puis on finit par être ensemble et puis on finit par faire un bébé et puis ça se complique parce qu'en fait la semaine où moi j'accouche, lui a les premiers symptômes de ce cancer qui va l'emporter un an et demi à peine après. Donc,
Comment tu l'as vécu ?
Alors, j'étais dans le déni total jusqu'à un mois à peu près avant qu'il ne décède, parce que je pense y avait un bébé. Donc moi j'étais jeune maman, il fallait que je m'occupe de lui. Et puis j'étais dans cet aspect justement, bon c'est dur, c'est chaud, c'est voilà, mais j'étais dans le positif quand même. Et même dans les pires situations. Où vraiment sa santé déclinait, etc. Où même les médecins me laissaient entendre des mots comme phase finale ou des choses comme ça, je ne les entendais pas du tout. Et il a vraiment fallu qu'on arrive au dernier mois où, pour que je comprenne qu'effectivement il fallait qu'il y ait une issue et que cette issue, peut-être encore dans le positif, c'était que il fallait que ça s'arrête pour lui, quoi. À un moment donné, il fallait que. Il pouvait plus souffrir, donc quelque part c'est la mort, mais c'est quand même quelque chose que j'ai transformé en positif entre guillemets, en disant c'est la meilleure chose pour lui, quoi.
Et toi dans tout ça?
Alors moi c'est moi je m'occupe de Louis et je m'occupe de son père, mais c'est vrai qu'à ce moment-là je ne me souviens pas de moi. Je fais l'essentiel pour tout, mais je me souviens à l'issue, donc après son décès, de me dire mais il y a des jours où j'oubliais de manger en fait. C'était même pas j'avais faim ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte qu'il y a eu des journées où j'avais oublié de manger. Donc je pense que j'étais vraiment dans un espèce de... J'étais portée par les responsabilités que tout ça imposait. Je pensais pas du tout à moi. Du tout. C'est après que ça se gâte. Louis a quand même un an et demi. Il est tout petit, il a besoin d'être épanoui, d'être stimulé. Donc je continue de faire tout ça. Je me reprends un petit peu en main, moi aussi. Par contre, je ne pense pas deuil. Je réalise juste une chose, c'est que j'ai reproduit le schéma de vie de mon papa. Et ça me perturbe un petit peu quelque part. J'ai pas d'inquiétude par rapport à l'éducation de Louis et assumer Louis. Je suis rassurée énormément par le fait que on était des agents logés par notre collectivité et on m'a autorisée à rester ici et ça je pense que c'était la meilleure des sécurités que je puisse mettre en place pour moi me préserver. Au bout d'un an et demi quand même, j'ai une grosse chute de morale. Alors bon, à l'époque, je me pose pas trop de questions. Je vais voir le médecin, ça va pas. J'ai plus envie, j'ai plus le sourire. J'ai du mal à stimuler mon fils à chanter pendant le bain, à faire des choses comme ça, et ça le perturbe aussi certainement. Donc elle me dit bon bah cherchez pas, hein, vous êtes dans le déroulé logique de ce qui s'est passé, et elle me met donc sous antidépresseur pendant un an et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc pendant un an et demi, pendant toute cette période, ça me permet de pas avoir de pensée focus sur des détails de ma vie professionnelle ou n'importe quoi. Parce que c'est ça, c'est en fait le problème était là, c'est que je me remettais pas en question par rapport à ce que j'avais subi comme choc émotionnel ou tout ce qui s'était passé. Je déchargeais tout ça sur des boucs émissaires piochés au hasard, soit dans ma vie professionnelle, soit, je faisais des focus sur des choses et ça me perturbait énormément. C'était, une sorte de transfert en fait de la colère ou de cette impression de pas contrôler, maîtriser les choses et du coup, fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre.
T'étais cachetonnée afin de pas en fait pouvoir regarder ce qui se cachait dans la cocotte minute quelque part dans ce brouhaha d'émotions qui pouvait se passer en toi. Et ça, à un moment donné, est-ce que tu as pu faire face à tout ça?
Alors en fait, ça m'a effectivement permis d'arrêter de focaliser sur certains détails et de vivre le deuil que j'avais à vivre à mon rythme, étape par étape. Alors je les ai plus en tête exactement, mais je suis sûre que je les ai toutes faites, c'est-à-dire effectivement d'accepter le fait de finir par ranger les vêtements, arrêter par exemple de jardiner à outrance, de me retrouver à 23h30 dans le potager à désherber parce qu'il fallait absolument que je le fasse parce que c'était son potager et qu'il fallait que je perturbe tout ça, etc. De me détacher petit à petit et donc je pense de faire ce travail de deuil ou peut-être aussi de rentrer en résilience sur ce qui s'était passé et d'accepter petit à petit de devenir aussi moi-même, de me détacher de cette histoire-là tout en continuant d'élever Louis et de l'accompagner.
Comment ça s'est passé justement pour Louis maintenant avec ton regard
Alors à l'époque je sais pas trop, pour moi tout se passait très bien. Alors j'ai vite pris conscience quand il était tout petit bébé qu'il savait, il comprenait qu'il se passait quelque chose quand même d'important sous son toit. Il avait un regard quand il passait devant la chambre de son père, où il avait un regard qui était différent du regard d'un enfant qui joue, qui observe ou qui s'épanouit ou voilà. Moi, enfin, par rapport à Louis, ce que je recherchais surtout à éviter, c'était cet aspect ultra fusionnel. On était tout le temps ensemble, il n'y avait que moi comme référence. Un exemple, quand je le laissais chez la nourrice, je m'éternisais pas et je m'étalais pas dans les au revoir, bonne journée, mon chéri, maman revient te chercher ce soir, etc. Nanana, au revoir, tout va bien se passer, j'ai confiance dans la personne à qui je te confie, et tant qu'il n'était pas avec moi, de laisser cette distance. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, qu'on ne soit pas fusionnel.
Et pour quelle raison tu ne voulais pas
Parce que je ne voulais pas qu'il soit responsable, ou en tout cas soucieux de sa maman. Je voulais que lui apprendre déjà à vivre sa vie, à vivre pour lui.
Pour quelle raison?
Peut-être pour éviter de lui faire ressentir ce que je ressentais, mettre une barrière par rapport à ça.
Et tu penses que...
Non, ça n'a pas marché. lui a eu... il a dû consulter, il a vu une sophro l'année dernière et elle m'a dit tout le contraire, quoi. Elle m'a dit qu'il était complètement connecté à moi. Alors certes, il est autonome, effectivement, il n'a pas besoin de moi pour vivre sa vie, mais il est très très connecté, quoi. Donc je pense que c'est une éponge à émotion, et que effectivement ce que j'ai ressenti, il l'a ressenti de la même manière. Raté. Mais bon, après c'est lui, je le considère pas comme un échec.
Quand je t'entends, j'ai surtout l'impression que t'as fait ce que t'as pu, en fait. T'as fait avec le matériel que t'avais, le cœur que tu avais.
Ça c'est sûr.
L'envie que t'avais. Donc. T'as voulu surtout beaucoup le protéger, en fait.
Complètement. Et les moments où j'ai commencé à me remettre en question, à me poser le plus de questions possible, à mettre en place des stratégies, à y réfléchir, c'est ces moments-là où je me suis plantée. Quand j'ai arrêté, dans ces périodes de doute, de m'infliger ce doute-là, et que j'ai laissé la place à mon instinct, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a le mieux traversé et vécu la situation avec Louis. Mais quand je commençais à me poser des questions, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il a assez mangé, ça n'allait pas. En fait, il était effectivement agité, et c'est là que les pleurs arrivaient. J'ai pris conscience que l'instinct, en fait, serait salvateur, dans le sens où il suffit que je le ressente, quoi, et que je me laisse le ressentir. Et ça m'a suivi longtemps, parce que quand je commençais justement à avoir ce genre de soucis, et encore aujourd'hui qu'il est fin d'adolescent, jeune adulte, et que des problèmes se posent à lui, je fais pas de plan. On a donc passé quelques 5 ou 6 ans avec Louis tout seul, donc il rentre au CP. Bon, moi je continue mon petit bonhomme de chemin au boulot, et je deviens responsable d'une équipe, notamment avec la responsabilité de l'élagage, un domaine que je connais pas du tout, donc je pars me former pour mener à bien ces responsabilités là et à ce moment là donc je rencontre donc le formateur, qui ça se passe très très bien, le courant passe vite, on finit par se revoir, et puis peut-être un an après à être ensemble. Et puis on va passer quelque chose comme, je crois, 4 ans ensemble. Alors c'était un peu compliqué parce que la famille recomposait aussi, il avait des enfants avec qui ça se passait pas forcément très très bien, donc on a vécu un petit peu ensemble, et puis après on a décidé quand même de ne plus vivre ensemble sans se séparer. Parce que même Louis, on n'avait pas le même système éducatif. Donc quand les filles étaient là, Louis avait une éducation telle, et puis les filles avaient une autre éducation. Donc. Et là, je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à laisser de la place à quelqu'un d'autre à s'introduire dans l'aspect éducatif de mon fils. Donc je gérais, et il ne fallait pas qu'on intervienne autrement. Et puis finalement, notre histoire s'est essoufflée, et on a fini par se quitter au mois de juillet, tout en restant quand même un petit peu en relation, parce que Louis aimait bien Fabrice, et qu'il avait envie de le voir encore un petit peu. Donc au mois de mai de l'année suivante, j'apprends par un message texto qu'il s'est tué pendant qu'il exerçait son métier. Il est tombé de la nacelle dans laquelle il était pour tailler son arbre, et il s'est tué sur le coup. Donc là, oui, c'est un choc assez... l'accident, c'est vraiment un choc très, 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 très important. La souffrance est différente. Je dirais pas que j'ai plus souffert, mais la souffrance est tellement différente, c'est incompréhensible. C'est pourquoi... c'est je lui avais dit, je l'avais prévenu, enfin c'est voilà, c'est imaginer l'accident, ça a duré très très longtemps, ça a été plus choquant que la maladie en fait. Et enfin c'est resté dans ma vie ça très 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 longtemps. Et là contrairement à quand le papa de Louis quand Yves est décédé, j'ai senti que je me refermais. Je me suis encore plus recroquevillée à me concentrer sur les essentiels, le boulot, mon fils et la famille, mais plus aucune ouverture vers l'extérieur, très très difficile, encore plus que d'habitude. Ouais.
Vous avez écouté le premier épisode de l'histoire de Camille. Vous pouvez découvrir le deuxième épisode en nous suivant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur les réseaux sociaux en tapant « Tous sorcières ». Et si vous avez envie de partager à votre tour votre histoire, vous pouvez nous écrire sur toussorcières@gmail.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À bientôt.